Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'évangile de Jean, au premier chapitre. Évangile de Jean, premier chapitre. Nous lirons les versets 1 à 4 et les versets 10 à 14. 1 à 4, 10 à 14. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Versets 10 à 14. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. Que l'Éternel bénisse la lecture de sa parole. Amen.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre église, amis visiteurs, vous êtes un peu plus nombreux que d'habitude, cela est bien normal, nous sommes en période estivale, que vous sentiez à l'aise parmi nous. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion peut-être de voir quelques images hier concernant l'ouverture de la cérémonie des Jeux Olympiques. Il y a parfois, malgré des images grandioses, malgré un spectacle extraordinaire, il y a eu des touches qui m'ont interpellé parce que j'ai entendu des cantiques. Et sur certains hymnes, c'était vraiment des chants et des cantiques que nous avions l'habitude de chanter. Et tout au début, quand on regarde ce spectacle extraordinaire, nous avons un sentiment de fierté, nous avons un sentiment de fraternité, de partage. Nous avons un sentiment que tout ce qui est bien, au mieux de l'homme, peut ressortir à ce moment-là. Et quelquefois, on est amené à se remplir d'un certain juste satisfaction, voire peut-être se gonfler un petit peu d'orgueil. Et en tant qu'être humain, parfois nous sommes devenus tellement satisfaits de nous-mêmes que nous avons oublié dont nous sommes venus. Vous savez, nous avons des théories au sujet de tout maintenant, et même de la manière dont le monde a commencé. Une de ces théories dit que tout est arrivé par chance, par hasard. Mais cela ne peut se mesurer avec l'évidence que nous avons. Thomas Grove nous raconte cette histoire, c'est une métaphore, c'est une, en quelque sorte, une parabole moderne. Une histoire raconte qu'un groupe de savants était en réunion. Et ils décidèrent que les humains venaient de tellement loin qu'ils n'avaient plus besoin de Dieu. En regardant la progression, d'où ils avaient commencé, où ils étaient arrivés, ils se sont dit, on n'a plus besoin de Dieu, on a tellement progressé. Après avoir pris cette décision, ils ont nommé un des leurs pour aller et expliquer à Dieu qu'on n'avait plus besoin de lui. C'est un groupe de savants, bien entendu. Le savant a dit « Dieu, nous sommes arrivés à la conclusion que nous n'avions plus besoin de toi, car nous sommes sur le point de concevoir la vie dans une éprouvette et même de cloner les gens. Nous sommes tellement en avance technologiquement que nous ne pouvons faire beaucoup de choses qui, autrefois, étaient estimées miraculeuses. Donc, nous demandons que tu remettes le monde entre nos mains. » Dieu a écouté jusqu'au bout. Avec une grande douceur dans la voix, il a dit « Très bien, mais d'abord, pourquoi ne pas avoir un concours de création de l'homme ?» Ceci parut au savant comme une idée merveilleuse et il fut d'accord d'accepter ce défi. Mais Dieu dit « Maintenant, vous comprenez qu'il faudra faire exactement comme je l'ai fait dans le jardin d'Éden avec Adam. » Le savant, sûr de lui, dit « Pas de problème !» et se baissa et prit une poignée de la terre, sachant qu'il tenait dans sa main toutes les composantes de la vie. Mais Dieu l'a regardé et a dit « Vous ne comprenez pas, il vous faut trouver votre propre terre. » En tant qu'êtres humains, nous sommes devenus tellement satisfaits de nous-mêmes que nous avons oublié d'où nous sommes venus. Et oui, nous avons des théories au sujet de tout, et même de la manière dont le monde a commencé. Une de ces théories est que tout est arrivé par chance et par hasard. Mais cela ne peut se mesurer avec l'évidence que nous avons. On nous dit qu'il y a plus de 60 critères qui sont essentiels pour la vie sur Terre. Voici une liste partielle de ce qui est nécessaire et ce qui manquerait et ce qui serait décalé pour que tout serait chamboulé. Premièrement, la rotation de la Terre, plus lentement ou plus rapidement, cela change tout. Nous étions 2% plus proches ou plus loin du Soleil. Cela changerait tout. La Terre avait un changement de 1% en lumière solaire. Cela changerait tout. La Terre était plus petite ou plus grande. Ça serait différent. La Lune était plus petite ou plus grande. Également, il y aurait une incidence. Si nous avions aussi plus d'une lune, l'écorce de la Terre était plus mince ou plus épaisse, ce serait différent. Le taux d'oxygène par rapport au nitrogène était plus grand ou plus petit, ça serait différent. La couche d'ozone était plus grande ou plus petite, l'équilibre serait rompu. Ainsi, uniquement cette liste partielle, nous voyons qu'il n'y a aucune possibilité que cette Terre ou cet univers dont nous profitons ait pu apparaître par chance ou par hasard. Des hasards sur tous ces critères-là. Mais comment donc cela est-il arrivé? Jetons un coup d'œil sur un des passages les plus familiers des Écritures, et vous le connaissez aussi bien que moi, qui nous dit comment tout cela est arrivé. Je vous invite à ouvrir votre livre et nous allons lire simplement le premier verset de la Genèse. Et nous nous arrêterons uniquement sur la première phrase et nous allons prendre mot à mot cette phrase. Il est dit, Genèse 1, verset 1, « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. » Ici, nous voyons un résumé de ce qui serait rapporté dans le reste de Genèse 1, chapitre 1 et chapitre 2. C'est également la base de tout le reste des Écritures. Jetons-y un coup d'œil, mot à mot. On reprend ce verset. au commencement. L'Écriture nous montre clairement qu'il y a eu un commencement, que la vie n'est pas qu'un cycle sans fin, comme certains pourraient essayer de le démontrer, que tout a commencé à un moment précis dans le temps. Il y en a qui considèrent le récit de la création comme un simple mythe. Et je peux vous dire qu'en ayant fait partie 2 ans de cercle œcuménique, certains chrétiens optent pour cette orientation. Un simple mythe, quelque chose qui a été inventé par les anciens afin de simplifier la manière dont l'évolution est arrivée. Mais le mot hébreu, Bereshit, signifie qu'il y a eu, en effet, un commencement. Quand ce commencement est-il arrivé ? Oh, je sais, certains affirment que ce commencement a pris place voilà des millions d'années. D'autres disent des dizaines de milliers d'années. Et d'autres encore, simplement quelques milliers d'années. Maintenant, si vous ouvrez certaines Bibles en Genèse 1, vous verrez l'année 4004 avant Jésus-Christ. C'est à cette date que la création aurait eu lieu. Je dois vous dire que cette date n'est pas inspirée. C'est une date à laquelle l'évêque anglican de l'Irlande, James Usher, est arrivé en 1650 en étudiant la chronologie de la Bible. En fait, l'évêque Usher est arrivé au 3 octobre 4004 avant Jésus-Christ pour la date exacte de la création. Cependant, dans son étude, Usher a fait certaines suppositions qui ne sont pas correctes et qui reculent quelque peu la création. Néanmoins, ce qu'a fait Usher, c'est de nous aider à voir que le monde n'est pas vieux de milliards ni même de millions d'années. Mais tout ce que le texte nous dit est « au commencement ». Au commencement nous dit également que ce monde, y compris les humains, n'est pas un accident. À un point donné de l'histoire, un être infini a conçu et créé ce monde. Ce monde, vous et moi, ne sommes pas des accidents dus au hasard. Nous avons été délibérément créés. Voulu. Voyons maintenant le mot suivant de notre phrase, de ces premiers versets. Au commencement, Dieu. Le mot hébreu est Elohim, lequel est un mot très important dans la Bible. Il y a 2 mots principaux qui sont employés dans l'Ancien Testament pour désigner Dieu. Celui avec lequel nous serions le plus familiers est Yahvé ou Jéhovah. C'est le nom propre de Dieu. L'autre nom qui est utilisé dans ce texte est Elohim. Un exemple des différences entre l'utilisation de ces 2 mots se trouve actuellement dans les 2 premiers chapitres de la Genèse. Le 1er chapitre emploie exclusivement pour Dieu le mot Elohim. Il mentionne Dieu qui parle et la lumière arrive. Dieu qui parle et le soleil, la lune et les étoiles existent. Dieu qui parle et tous les animaux existent. Il mentionne même Dieu créant l'homme, mais ne dit pas comment cela fut fait. Ainsi, Dieu Elohim est un Dieu puissant qui parle et accomplit. puis, nous avons le chapitre 2. Ici, le mot employé pour Dieu change de Elohim à Yahvé. Nous voyons soudain un Dieu plus personnel, un Dieu qui s'abaisse jusqu'à la poussière pour créer l'homme, un Dieu qui a créé le jardin d'Éden pour qu'y vive l'homme, un Dieu qui voit que l'homme est seul et qui pratique la première chirurgie afin de créer une aide semblable à lui. Ainsi, le fait que nous voyons un Dieu puissant et personnel, participant à la création du monde, jette immédiatement des doutes sur toutes sortes de théories que nous connaissons bien. Je ne vais en citer que trois. La première, c'est l'athéisme, dont la doctrine, s'il y a un Dieu, son existence ne peut être prouvée. Ça laisse des doutes également sur le panthéisme, dont la doctrine, Dieu est en tout. Ici, le danger est que maintenant, le Créateur est assujetti aux caprices de sa création. Et puis, ça laisse aussi des doutes sur le polythéisme, qui enseigne qu'il y a beaucoup de dieux. Mais la Bible nous dit qu'un être infini, Dieu lui-même est le Créateur. Nous avons vu qu'il y a vraiment eu un commencement, qu'il n'y a pas d'univers avec des cycles sans fin et que ce monde n'est pas un accident. Nous avons vu Dieu puissant et personnel, responsable de l'univers. Et je vous invite maintenant à passer au mot suivant de notre phrase. Au commencement, Dieu crée. Le mot bara en hébreu est très significatif. Il n'est utilisé que si Dieu en est le sujet, ce qui veut dire que Dieu seul peut créer. Je dois admettre qu'il m'a fallu du temps pour comprendre ce que cela implique. Seul Dieu peut créer, mais vous allez me dire, qu'en est-il donc des grands chefs-d'œuvre, des grands objets artistiques n'ont-ils pas été créés par l'artiste? Et qu'en est-il des grands arts culinaires? Ne furent-ils pas créés par ceux qui les ont conçus? Et qu'en est-il des parents? N'ont-ils pas créé les enfants qui sont les leurs? Vous voyez, bien des fois on utilise des mots « créer » et « faire » de manière interchangeable. Mais en réalité, ils ne le sont pas. En tout cas, pas dans la Bible. La Bible rend très clair le fait que seul Dieu peut « bara », c'est-à-dire « créer ». Mais quelle est alors la différence ? Voyez-vous ce que Dieu a fait? Il crée quelque chose à partir de rien. Il a parlé et la lumière fut. Il n'a pas pris un fil qu'il aurait attaché à une génératrice dans le ciel afin de faire de la lumière de cette façon. Non. Il a créé la lumière là où il n'y avait pas de lumière. Il l'a créé à partir de rien. Il a parlé et oiseaux et poissons sont apparus. Il n'avait pas d'incubateur quelque part pour y transformer des œufs et faire les poissons et les oiseaux. Il a fait quelque chose à partir de rien. Rappelez-vous l'histoire que je vous ai racontée au début. Nous voyons dans l'histoire au début du sermon que nous les humains, pouvons faire toutes sortes de choses à partir de matériel déjà existant. Mais nous ne pouvons jamais créer quelque chose à partir de rien, comme Dieu, lui seul, peut le faire. Alors, qu'est-ce que cela me dit? Cela me dit que le Dieu puissant et personnel mérite d'être adoré comme créateur. Le seul être dans tout l'univers qui peut parler et cela devient quelque chose. Le seul être qui peut faire quelque chose à partir de rien. Un être qui a parlé et les arbres sont apparus. Un être qui a parlé et l'eau est apparue. Un être qui a parlé et le ciel est apparu. Ce genre d'être mérite l'adoration, car il est le seul créateur. En fait, c'est cela qu'est le sabbat. Adorer et être émerveillé devant celui qui est le Créateur. Nous, les humains, devenons comme les savants dont nous avons parlé au début, qui pensent que nous vivons sans Dieu, que nous avons plus besoin de lui. Mais chaque septième jour, on nous rappelle que tout ce que vous avez à faire est de regarder autour de vous et voir que vous n'êtes pas créateur, mais que Dieu dans le ciel est le Créateur qui mérite d'être adoré. Nous avons vu un univers qui n'est pas un cycle sans fin, et ce monde n'est pas non plus un accident, un hasard. Nous avons vu un Dieu puissant et personnel, responsable pour l'univers, et maintenant nous avons vu un Créateur qui, au contraire de tout autre être dans l'univers, a tout fait à partir de rien. Alors, poursuivons notre investigation de cette première phrase. Passons au dernier mot de ce verset. Au commencement, Dieu a créé les cieux et la terre. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un débat en cours dans les cercles religieux pour savoir s'il s'agit de l'univers tout entier ou simplement du monde dans lequel nous vivons. Oh, je ne vais pas maintenant entrer dans ce débat parce que je pense que les mots « les cieux et la terre » nous disent clairement que Dieu est à l'origine de tout. Ensuite, je ne suis pas suffisamment érudit en la matière. Mais en me basant simplement sur le texte biblique, chaque fois que cette phrase est employée, elle fait référence à tout ce qui existe. Ainsi, quand nous regardons dans un microscope, c'est un Dieu qui a créé toutes les petites choses que nous y voyons. Quand nous regardons le ciel avec un télescope, chaque étoile et planète que nous voyons a été créée par Dieu. Alors que nous regardons autour de nous, Dieu a tout créé. Et il nous a confié, à nous les humains, de prendre soin de tout ce qu'il a créé. Ainsi, je pense qu'il est important, alors que nous trouvons plaisir dans le monde qu'il a créé, de nous rappeler que Dieu est celui qui nous a confié la responsabilité de soigner ce qu'il a créé. Nous sommes ses gérants, nous avons une gérance de ce monde. Tout était parfait. À la fin de la création, le sixième jour, alors qu'il se prépare à se reposer, Dieu a dit que cela était très bon. Il avait tout créé, même l'homme et la femme, avec lesquels il pouvait maintenant entrer en relation. Mais alors, quelque chose de mauvais s'est passé. Quelque part, l'homme et la femme ont péché. Et à cause de ce péché, sa création a été entachée. Soudainement, la mort est venue et tout ce qu'il avait créé a commencé à mourir, même les humains. Mais Dieu ne permit pas que cela reste sans réaction. Il a mis en place un plan d'action qu'il avait déjà envisagé avant même de commencer à créer. Il viendrait lui-même sur la terre pour sauver l'humanité en mourant pour elle. Ce serait un grand risque, mais Dieu était disposé à payer le prix afin d'empêcher le péché
et la mort de se perpétuer à l'infini. L'apôtre Jean décrit ceci comme suit.
Et nous revenons au texte de base de la lecture qui vous a été faite par Camille. Jean 1, 1 à 4 et 10, 14. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, elle a été habitée parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Dieu lui-même est venu sur la terre pour arrêter le péché et la mort qui ont défiguré sa création. Et ainsi cette parole que Jean décrit, le Créateur lui-même, Jésus-Christ, est venu et a vécu parmi nous, puis est mort afin d'arrêter le cycle du péché et de la mort. Mais ce n'est pas encore fini. Et la création de Dieu est toujours défigurée. Mais un jour, tout va changer. Ce même apôtre Jean, qui décrit Jésus comme étant le Créateur au commencement, a écrit ces paroles qui font écho aux premiers mots de la Bible. Allez dans le dernier livre de notre Bible, Apocalypse 22, et les versets 12 et 13. Apocalypse 22 et les versets 12 et 13. Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Puisque Jésus est venu pour arrêter le cycle du péché et de la mort, il peut promettre qu'un jour tout cela s'arrêtera. Un jour il reviendra. Un jour le péché, la mort et la souffrance cesseront. Et un jour la création de Dieu sera recréée pour ne plus jamais être défigurée par le péché et la mort. Écoutez comment Jean décrit cette recréation. Juste le chapitre d'avant, Apocalypse, maintenant 21, les versets 1 à 6. Ça sera le dernier verset de cette prédication. Puis je vis un nouvel ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est préparée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. » Car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Et il me dit, « C'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. » Et voici la conclusion de cette prédication. Nous pouvons être frappés d'émerveillement par la beauté que nous voyons autour de nous aujourd'hui. Mais très bientôt, des nouveaux cieux et une nouvelle terre seront recréés. Nous ne pouvons même pas imaginer combien cela sera beau.
Je veux nous inviter aujourd'hui à commencer à faire des plans pour faire partie de cette nouvelle terre. Dites à notre Créateur que vous faites des plans pour faire partie de cette grande recréation où le péché, la mort et la souffrance ne montreront plus jamais leur visage exécrable. Que Dieu nous y aide. Amen.